Et à 18h, les infos, Nathalie Domenego, on a appris tout à l'heure le décès de Jean-Pierre Mocky.
Il avait 86 ans, maître de la dérision, franc-tireur du cinéma français, il n'avait pas sa langue dans sa poche, vous l'entendrez. Changer nos habitudes alimentaires, c'est là l'une des pistes que préconisent les experts de l'ONU si l'on veut sauvegarder notre planète. Qu'en pensent les producteurs céréaliers d'Île-de-France? Nous leur avons posé la question. Opération grand nettoyage dans les écoles parisiennes, polluées par les particules de plomb suite à l'incendie de Notre-Dame. Nous sommes allés à l'école Saint-Benoît dans le 6e pour voir comment ça se passait.
Jean-Pierre Mocky est décédé, il avait 86 ans.
Un caractère fort, c'était le plus inclassable des réalisateurs français. Il a fait une soixantaine de longs métrages et cette grande gueule du cinéma n'aimait pas trop les prix. Il était très critique, par exemple avec le Festival de Cannes. Voici ce qu'il en disait en 2010.
J'ai des camarades qui sont jeunes, qui font des beaux films. Eux, ils n'ont jamais de prix. C'est toujours les mêmes qui ont des prix. Toujours les mêmes. Il y a Théo Angelopoulos, il y a Haneke, il y a les frères Dardenne. C'est-à-dire tous les films chiants à mort, ils sont récompensés automatiquement. Et même par des gens qui les détestent. Alors ça, c'est le plus fort. Eh ben, c'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que je dis que c'est scolaire, parce qu'à l'école, il y a le fort en thème. Quand on était au conservatoire avec Belmondo, et Belmondo a rien eu, moi j'ai rien eu, et c'est des mecs qui ont eu les prix. Et bien on les a jamais entendu parler d'eux d'ailleurs, ceux qui ont eu les prix cette année-là. Et nous on a entendu parler de Belmondo et de moi, donc ça veut dire que moi je suis pour les autodidactes, les prix c'est de la merde. Et un prix ça veut rien dire, voilà.
Jean-Pierre Mocky, décédé cet après-midi chez lui à Paris à 86 ans. Le réalisateur du film À mort, l'arbitre, avait notamment racheté en 94 le cinéma Le Brady, situé à Paris dans le 10e boulevard de Strasbourg, avant de le revendre en 2011. Le cinéma Le Brady, c'était d'ailleurs un temps appelé Le Brady Albatros, en référence à l'un des films de Jean-Pierre Mocky, L'Albatros, sorti en 71.
Il nous faut impérativement changer nos habitudes alimentaires.
Oui, sinon nourrir les plus de 10 milliards d'individus sur Terre à la fin du siècle, eh bien, ce sera de l'ordre du défi. Le groupe d'experts internationaux de l'environnement a publié un rapport. Aujourd'hui, il propose de manger moins de viande, de veiller à gaspiller le moins possible. C'est une des pistes. Des régimes plutôt à base de végétaux, autres que le blé ou le riz, plutôt des graines et des aliments d'origine animale produits dans des systèmes à faible impact sur l'environnement. Qu'en pensent justement les agriculteurs? Ils sont concernés. Nous avons posé la question à Louis Daniel Champy, il est céréalier à Montreux, en Seine-et-Marne.
Pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire pousser du pois? Alors déjà, pour que les céréales, en général, sur une exploitation agricole, ça représente entre 50 et 60%. De la sol. On peut aller à 70%. Mais pour bien cultiver de la céréale, il faut ce qu'on appelle, nous, une tête d'assolement. La tête d'assolement, c'est une plante qui n'appartient pas à la famille des céréales. On a donc les légumineuses et les oléagineuses. Les légumineuses, ce sont par exemple les pois, ce sont les févroles. Et les oléagineuses, vous avez le colza, le tournesol, le lin.
Du colza, en faites ?
Le colza. Quand vous produisez du colza, donc quand on écrase la graine, on sépare l'huile du tourteau. Et ce tourteau, l'homme ne le consomme pas. Par contre, c'est le règne animal qu'il consomme. Cochon, vache, poule, pour ne citer que.
Oui, Louis Daniel Champy, les céréaliers à Montreux, en Seine-et-Marne, il a déjà commencé à s'adapter en multipliant avec la diversion de ses cultures. Et il répondait à Nathalie Delpera.
Opération dépollution dans les écoles parisiennes.
Le grand nettoyage a commencé à l'école Saint-Benoît dans le 6e arrondissement de Paris. École fermée depuis fin juillet à cause des concentrations en plomb élevées jusqu'à 7 fois supérieures au seuil de précaution. Après avoir tenté le nettoyage au jet d'eau, pas assez efficace, hein, Mélodie Pépin, eh bien, on passe aux choses sérieuses. Les cours de récréation sont entièrement refaites.
1850 m², il faut retirer tous les sols bétonnés, les remplacer, détruire tous les arbres, les végétaux. Place à la méthode radicale, la plus efficace pour le chef de chantier, Michael Prestavoine, appelé sur tous les grands travaux de dépollution en France.
La meilleure méthodologie qu'on a trouvée était de retirer clairement les enrobés afin que les enfants qui vont pouvoir reprendre les cours début septembre aient des conditions sanitaires totalement conformes.
Forcément, on ne badine pas avec les précautions sur ce type de chantier, alors on s'équipe.
Donc protection des chaussures, vous allez avoir une combinaison et une protection donc respiratoire qui va vous être donnée pour rentrer en zone. Donc là, on va se diriger vers le collège et là, on est dans la cour élémentaire.
Voici le procédé. Un agent est en train d'asperger un surfactant sur le sol.
Donc c'est un produit qui est coloré vert, qui est posé au sol, qui plaque les poussières au sol et après, avec les engins, on vient gratter l'enrobé.
Tous les gravats sont ensuite stockés dans des grands sacs étanches. Direction une unité de traitement des matières dangereuses en Mayenne.
L'équipe qui a été en zone, il faut vous déshabiller sur le polyam, s'il vous plaît.
Donc là, vous pouvez vous déshabiller pour la première équipe et je vous donne du scrub pour vous nettoyer les bras.
L'objectif, c'est que tout soit terminé le 24 août et de nouveaux prélèvements seront réalisés avant la rentrée.
Merci Mélodie Pépin, vous rentrez tout juste de cette opération nettoyage qui s'est déroulée cet après-midi dans le 6e arrondissement à l'école Saint-Benoît. Et puis, de son côté, la région Île-de-France annonçait qu'elle allait procéder au nettoyage de 3 lycées situés autour de la cathédrale, Fénelon, Saint-Louis et Charlemagne. Ces 3 établissements présentent aussi des concentrations élevées en plomb, ils seront nettoyés d'ici la rentrée. Après la mort du maire de Signes dans le Var, renversé par une camionnette qui déposait illégalement des gravats, Brune Poirson, la secrétaire d'État à la transition écologique, compte réunir à la fin du mois les professionnels du bâtiment pour mettre en place, au plus vite, dit-elle, des mesures contre les décharges sauvages. Ces décharges, véritables fléaux, c'est ce qu'elle déclare, et qui coûtent cher à la collectivité. Les trains de la ligne Clermont Ferrand, Paris, enregistre jusqu'à 4 heures de retard. Cet après-midi, le trafic ferroviaire est perturbé dans les deux sens après un accident de personne en Seine-et-Marne. Un intercité qui devait arriver à 13h53 à Bercy, notamment, affiche précisément 4 heures de retard.
France Bleu Paris, 18h06, reprise de la Ligue 1 ce week-end pour le PSG. Ce sera sans Herrera.
Et oui, la nouvelle recrue espagnole. Le PSG a dispensé pour un mois. Le milieu de terrain s'est blessé hier à l'entraînement. Il manquera donc la première rencontre de la saison, dimanche soir au Parc des Princes, face à Nîmes. Un match à suivre, bien sûr, en direct et en intégralité sur France Bleu Paris. Et puis, c'est Monaco-Lyon qui ouvrira la saison demain soir. Nous vous proposons de voter pour le plus beau maillot des 20 équipes de la compétition. Ils sont d'ailleurs à découvrir sur francebleuparis.fr. Pour le moment, attention, c'est Strasbourg qui est en tête.
Et puis, vous l'avez dit, Nathalie, les footballeurs parisiens jouent dimanche, mais les footballeuses du PSG jouent, elles, ce soir, près de Toulouse.
Oui, rendez-vous à 21h à Colomiers face à Montpellier et elles jouent en finale de la Women's French Cup.